Bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez Colline Fanon, vous vous appelez aussi Mariella SR. Cette deuxième identité, vous l'avez découverte en recherchant votre mère biologique au Guatemala, une quête que vous racontez pas à pas dans ce livre. La première personne à qui vous parlez, c'est votre sœur biologique au Guatemala que vous avez retrouvée à travers un réseau social. Et le premier contact, d'ailleurs, n'est pas facile.
Oui, effectivement, elle se demande ce que je lui veux, d'autant plus que je ne parle pas bien l'espagnol, quasi plus même. Elle se demande qui je suis, pourquoi est-ce que je lui écris depuis l'Europe. Et là, c'est qui tout double, donc je lui envoie effectivement cette copie de la carte d'identité de notre maman. Et là, elle me dit, c'est bien notre mère, mais qui es-tu? Ma sœur me dit, mais j'ai une sœur qui s'appelle Mariella, mais elle est morte, c'est pas toi.
Et très vite, finalement, les barrières s'effacent et là, la discussion devient plus simple. Vous vous déplacez. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de cette première rencontre, première arrivée au Guatemala, un pays que vous ne connaissez pas?
Oui, je suis partie la boule au ventre. J'avais très très peur parce qu'en plus, je laissais mes enfants derrière moi. Mais c'était devenu invivable. Je ne dormais plus la nuit, j'étais en contact avec eux. Ma mère, là-bas, ne dormait plus non plus. Finalement, entourée de beaucoup de bienveillance de toutes parts, je suis partie. Et arrivé au Guatemala, c'est comme si tout s'était effacé. Ça a été un moment vraiment intense. On voit des gens qui nous ressemblent alors qu'on ne parle pas la même langue. Et puis quand j'ai vu ma famille, quand j'ai vu ma maman, voilà, ça c'est indescriptible. Je n'oublierai jamais la chaleur de sa joue. C'est voilà, puis elle m'embrasse, elle pleure et je suis son bébé, quoi.
Et malgré tout, en parallèle, l'enquête continue, la recherche de la vérité.
Oui, tout à fait. Moi, dans un premier temps, j'avais besoin de voir. J'avais besoin de voir où j'étais née, j'avais besoin de voir où j'avais été en captivité. J'ai pas su encore aller voir l'endroit où j'étais née vraiment à l'hôpital. Ça, je ne suis pas encore capable de le faire. C'est un process, donc là, ça fait 4 ans. Mais en 4 ans, c'est petit à petit. Enfin, je respecte mon rythme aussi de pouvoir y aller piano, parce que c'est vraiment douloureux.
Vous écrivez que vous êtes née à 31 ans en 2017 en retrouvant cette mère biologique. Vous êtes une autre personne aujourd'hui?
Complètement. Je suis une autre femme, une autre mère et une autre personne. Je me suis reconnectée avec mes racines, avec mes origines, découvert une force que j'avais en moi dont je n'avais pleinement pas connaissance. Mais également, je pense, le plus important, c'était de me connaître moi-même pour mes enfants.
Vous découvrez que tous les documents de votre adoption ont été légalisés après falsification. Votre date de naissance est fausse, votre lieu de naissance est faux, le fait que votre mère vous a abandonné est faux, alors qu'on lui a dit à l'hôpital que vous étiez décédé. Vous apprenez aussi que vous avez été séquestré pendant 11 mois avant d'arriver en Belgique. Vous gardez des séquelles de cette séquestration?
Oui, je pense que les séquelles sont les traumas. Je n'y mettais pas forcément une signification particulière, ou en tout cas, je ne m'expliquais pas certaines choses, dont des cauchemars, certains comportements. Et c'est encore difficile, même les professionnels ne peuvent pas déterminer exactement l'origine de ces traumas, mais oui, il y a des traumas qui restent, évidemment.
Ces deux existences légales, concrètement, que cela suppose pour vous, aujourd'hui, dans votre vie quotidienne?
C'est très compliqué parce que d'un point de vue purement juridique, j'existe dans deux pays sous deux identités complètement différentes, avec deux législations différentes. Pour le Guatemala, je ne suis jamais sortie du pays. Et en Belgique, la loi dit que tout acte officiel ou tout document officiel découlant d'un faux est considéré comme faux. Donc voilà, je vis avec une fausse identité en Belgique, une fausse date de naissance, un faux lieu de naissance. Légalement, je dois attendre que la justice fasse son travail pour me permettre de régulariser ma situation. Mais encore une fois, émotionnellement, si je dois choisir mon nom, qu'est-ce que je vais choisir? Je ne peux pas effacer 31 ans de Colline et je ne peux pas revoler une partie de mon identité à mes parents qui, eux, au Guatemala, m'appellent Mariella.
Ce que l'on comprend au fil de votre ouvrage, c'est qu'un grand flou juridique entourait l'adoption en Belgique, dans lequel évoluaient des associations qui jouaient le rôle d'intermédiaire. Dans le cas de vos parents adoptifs, il s'agissait de l'association Acer Puente. Est-ce qu'aujourd'hui, cette association est poursuivie?
Cette association est suspectée. En tout cas, il y a une enquête qui est en cours, diligentée par le parquet fédéral belge. L'affaire est à l'instruction. J'attends, évidemment, on respecte la présomption d'innocence. Il y a une suspicion, il n'y a aucune inculpation. Et j'espère que ces personnes qui ont opéré nos adoptions vont parler, parce qu'aujourd'hui, on fait face à un mur de silence.
Votre enlèvement, suivi de votre adoption en Belgique, est intervenu dans un contexte bien particulier au Guatemala, celui du conflit armé interne, la guerre civile qui a ravagé le pays pendant plusieurs décennies. Pourquoi ces affaires ont mis tant de temps à éclater ?
Je pense qu'il a fallu que les personnes concernées, les victimes, les personnes adoptées, soient adultes, soient plus âgées pour partir à la recherche de leurs origines. Après, je pense que le fait d'avoir Internet, toutes ces technologies, imposent de se confronter à son passé, finalement.
Et au centre de votre adoption, il y a aussi un personnage qui s'appelle Ofelia de Gamas. Elle est officiellement, Ofelia de Gamas, le témoin de moralité de votre mère. Qui est-elle ?
Alors, Ofelia de Gamas était la belle-sœur du président en place. Enfin, pour être précis, c'était le dictateur, parce qu'il s'est autoproclamé président, il n'a pas été élu par le peuple. Dans les années 80, il a succédé à Efraín Ríos Montt. Et donc, effectivement, Ofelia de Gamas est la belle-sœur de cette personne qui est à la tête de l'État et qui a déjà également été arrêtée en 1981 avec Edmond Mulet, à l'époque, qui était avocat pour notre orphelinat. Et ils ont été arrêtés avec des mamans canadiennes pour des enfants qu'ils envoyaient au Canada sous visa touristique.
Mais libérés.
Libérés, jamais poursuivis. Ces personnes qui ont opéré ces adoptions sont à des postes importants aujourd'hui. Des personnes sont membres de la Cour suprême de justice et des personnes qui sont toujours en place en tant qu'avocats. Moi, les avocats qui ont fait mon adoption au Guatemala sont toujours avocats.
Vous espérez que des procédures aboutissent au Guatemala ?
Personnellement, moi, au Guatemala, j'attends rien et je veux rien parce que c'est dangereux. Parce qu'il y a des menaces envers les familles, envers les gens qui militent. On a été auditionnés, enfin j'ai été auditionnée aux Nations Unies, à titre personnel par rapport à mon histoire, mais également à titre de Racine Perdue, donc la fondation à laquelle j'appartiens. On milite et c'est vraiment important de pouvoir porter cette thématique en 2021, parce qu'avant on ne parlait pas de ça. Les adoptions illégales, les institutions nous fermaient les portes, on n'en parlait pas.
Vous et votre famille subissez des menaces ?
Oui, au départ, j'y ai pas trop cru quand c'est arrivé, la première arrestation de mon frère.
L'arrestation de votre frère Ernesto au Guatemala.
C'est ça. Donc mon frère Ernesto a été arrêté 2 jours après avoir retrouvé mes documents d'identité, pour lesquels il a dû payer pour prouver et déposer en justice ce document comme preuve. Il est en prison, il a été condamné à 10 ans de prison pour la première peine, et ici un mandat est délivré pour les deuxièmes faits, il risque jusqu'à 60 ans de prison par victime, c'est-à-dire la prison à vie. J'avais pas d'éléments pour attester qu'il s'agissait effectivement d'une pression ou d'une menace. On pensait que ça s'arrêterait, et en fait on se rend compte que non. Et que plus le temps passe, le livre étant sorti en Europe, et il arrive au Guatemala en février, et là les choses ont commencé à s'accélérer, mon frère a été... réauditionné, sa maison a été criblée de balles.
Qu'avez-vous envie de dire aux enfants adoptés à la même période au Guatemala qui se posent des questions aujourd'hui sur leur identité ?
Que toutes les adoptions ne sont pas illégales. Il y a de belles adoptions, il y a de belles histoires. Et il n'y a personne qui n'y oblige. Ce n'est pas une fin en soi, la recherche des origines. C'est vraiment un souhait qui doit partir vraiment du cœur. Et qui peut s'arrêter à tout instant. C'est ce qu'on dit à toutes les personnes qui viennent au sein de Racine Perdue. Si vous vous arrêtez parce que dans votre vie, c'est trop dur, parce que dans votre vie, il y a un événement, une grossesse, un mariage, un décès, vous arrêtez, vous revenez. Nous, on ne doit pas savoir pourquoi. C'est votre vie, c'est votre intimité. Nous, on est juste là pour ouvrir un tiroir et le refermer à votre demande, c'est tout.
Merci beaucoup, Mariella Esser, Colline Fanon, d'avoir été avec nous sur RFI aujourd'hui. Je rappelle le titre de votre livre, « Maman, je ne suis pas morte » aux éditions Kenes Société.
Merci à vous.